Radio Prague, les informations.
Les syndicats de médecins appellent les médecins hospitaliers à rejoindre le mouvement de protestation du 1er mars. Des milliers de jeunes Danois en visite à Prague la semaine prochaine. Et puis la doyenne des Tchèques fête ses 109 ans. Les syndicats de médecins ont appelé les médecins hospitaliers à rejoindre le mouvement de protestation du 1er mars. Cette manifestation est organisée contre la réforme du système de santé voulue par le gouvernement. Les syndicats ont invité les médecins à prendre soin de leur propre santé durant cette journée et d'informer les patients sur les risques liés à cette réforme. Seuls les cas d'extrême urgence devraient être traités durant cette journée de grogne. Le gouvernement a lancé une grande réforme du système de santé avec des changements importants dans les structures des hôpitaux et des coupures budgétaires. Les médecins reprochent également au ministre de la Santé de ne pas avoir procédé à une revalorisation des salaires, comme il l'avait promis il y a 2 ans. Quelques 6 000 jeunes Danois doivent se rendre à Prague la semaine prochaine, selon des sources issues de l'ambassade du Danemark. La capitale tchèque est devenue une destination populaire pour les jeunes Danois. Environ 8 000 Danois étaient déjà à Prague cette semaine pour un séjour de 2 ou 3 jours. C'est venu coïncide avec les vacances scolaires au Danemark. Les étudiants danois se rendent à Prague dans le cadre de séjours peu onéreux et nombre d'entre eux ont déjà causé un certain nombre d'incidents, la plupart dus à une trop forte consommation d'alcool. La police a enregistré une dizaine d'incidents par jour. Mercredi, un groupe d'étudiants danois a démoli plusieurs chambres d'hôtel de la capitale. Les traducteurs afghans qui travaillent au service des soldats tchèques dans le cadre de la mission de l'ISAF souhaitent pouvoir s'exiler en République tchèque. Une des raisons principales est la peur de représailles des forces de l'opposition qui pourraient les frapper après le départ des soldats tchèques et des autres troupes de la coalition internationale. Les autres membres de la coalition sont confrontés au même phénomène. Et environ 200 traducteurs afghans travaillent pour l'armée tchèque. Les ministères de la Défense et des Affaires étrangères s'occupent des cas de personnes craignant pour leur vie. Mais pour l'heure, le ministère de l'Intérieur n'a reçu aucune demande d'asile. La doyenne des Tchèques, Evangelia Charosova, fête ses 109 ans ce vendredi. Evangelia Charosova, qui vit dans un village non loin de la ville de Bruntál, dans le nord-est du pays, est née en Grèce et a fui en Tchécoslovaquie pour échapper à la guerre civile qui a éclaté dans son pays d'origine dans les années 40. Illettrée, la vieille dame vit dans ce village depuis 1950. Elle comprendrait le tchèque, mais ne parlerait toutefois que le grec. Et puis à noter que l'épidémie de grippe qui a frappé le pays ces dernières semaines recule. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé le chef du service d'hygiène du pays, Vladimir Valenta. Le nombre de cas de graves infections respiratoires a connu une baisse de 11,6% cette semaine, tandis que le nombre de cas de grippe a baissé de 22%. Vladimir Valenta reste toutefois prudent et a mis en garde contre trop d'optimisme. Selon lui, l'épidémie de grippe n'est pas terminée. Plusieurs décès liés à celle-ci continuent d'être enregistrés dans le pays. Au total, 85 personnes sont décédées des suites de la grippe cette année. Et puis, à noter enfin en sport que contrôlée positive à un stimulant en octobre dernier lors du tournoi de Luxembourg, la joueuse de tennis Barbora Zaplavova-Stritsova a été suspendue 6 mois, a annoncé ce jeudi la Fédération internationale de tennis. Sa suspension s'achèvera le 15 avril prochain, soit 6 mois après son contrôle positif et son élimination au premier tour de l'Open de Luxembourg. On termine par un mot de météo. Samedi, jour de la fête des Liuba, le temps sera couvert avec de possibles chutes de neige en basse altitude. Les températures seront stables et varieront entre moins 1 et 3 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme présenté par Guillaume Narguet. Restez avec nous.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous. Merci donc à Anna pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité en cette fin de semaine, de la drogue et du foot notamment, il ne manquera donc qu'un peu de rock. Drogue tout d'abord confrontée à une importante production de pervitine. Tchèques et Allemands vont intensifier leur coopération dans les régions frontalières. Football ensuite, Chelsea et Naples étaient les deux adversaires prestigieux du Sparta de Prague et du Victoria Plzeň en Ligue Europa. Et puis comme souvent le vendredi, la seconde moitié de cette émission sera consacrée à l'économie. Aujourd'hui, il sera question des tickets restaurants. Nous l'avons annoncé en titre, la République tchèque entend intensifier sa collaboration avec l'Allemagne dans la lutte contre le trafic de drogue dans les régions frontalières. À l'occasion de la visite à Prague, jeudi, de son homologue allemand Hans-Peter Friedrich, le ministre tchèque de l'Intérieur Jan Kubice, qui a qualifié la situation actuelle d'alarmante, a annoncé qu'il souhaitait par exemple accélérer la procédure d'expulsion des étrangers condamnés en République tchèque pour leur implication dans un trafic. Récemment, le gouvernement a créé un groupe de travail dont la mission sera de réduire la production essentiellement de pervitine qui est ensuite exportée en Allemagne voisine, notamment dans les Landes de Saxe et de Bavière. Plus de précisions avec Alimoudine Ousmane.
La République tchèque possède une législation plus libérale que l'Allemagne en matière de drogue. Une différence qui pose des problèmes tant au niveau de la justice que de la police, car nombre de détenteurs de petites quantités de drogue ne sont tout simplement pas inquiétés en République tchèque, alors qu'ils sont en infraction de l'autre côté de la frontière. La détention minimale de drogue tolérée est en effet plus grande en République tchèque qu'en Allemagne. Le ministre tchèque de l'Intérieur, Jan Kubice, a annoncé vouloir changer la législation tchèque concernant la pervitine, la drogue dure la plus consommée en République tchèque et très recherchée du côté allemand.
Nous souhaitons abaisser la détention de cette drogue de 2 grammes à 1,5 gramme pour accorder nos deux législations. Cela vise particulièrement les ressortissants allemands qui viennent se fournir dans les marchés vietnamiens de la drogue.
L'initiative est saluée par le ministre allemand de l'Intérieur Hans-Peter Friedrich.
Je me réjouis que les autorités tchèques interviennent de toute leur force dans la lutte contre la drogue, que ce soit au niveau de la détention de drogue, mais aussi de la production et de la vente.
À ces mesures, qui visent essentiellement à lutter contre le tourisme de la drogue de petits consommateurs, va s'ajouter une intensification de la coopération policière et douanière de part et d'autre de la frontière. Rien que pour l'année dernière, les autorités tchèques et allemandes ont saisi 80 kg de méthamphétamine et 1000 personnes ont été arrêtées. La police allemande souhaite une coopération plus étroite avec ses collègues tchèques, notamment dans les équipes d'investigation ainsi que dans les échanges d'informations. Selon Petr Kocsi, adjoint au directeur de la Centrale nationale antidrogue, l'intense trafic trouve ses raisons dans la dynamique d'offre et de demande entre les deux pays.
Le problème est commun, c'est un problème tchéco-allemand. Du côté allemand, il y a des ressources financières et de la demande pour la drogue. Du côté tchèque, il y a l'offre qui réagit à la demande allemande. C'est donc un cercle vicieux qui ne peut être résolu que d'un seul côté de la frontière.
Les mesures annoncées risquent de compliquer l'activité de ceux qui sont impliqués dans ce juteux marché de la drogue, mais tant que celle-ci restera 3 fois moins chère en République tchèque qu'en Allemagne, il y a fort à parier que le trafic transfrontalier continuera de prospérer.
C'est assurément le résultat le plus surprenant de la soirée européenne de football de jeudi. C'est aussi l'un des plus beaux exploits jamais réalisés par un club tchèque en Coupe d'Europe. Le Viktoria Plzeň s'est en effet nettement imposé 3-0 sur la pelouse de Naples à l'occasion des matchs aller comptant pour les 16e de finale de la Ligue Europa. Cette victoire permet au club de Bohême de l'Ouest d'envisager avec beaucoup d'optimisme une qualification pour les 8e de finale. Nettement moins surprenante, en revanche, a été la courte défaite 1-0 concédée par le Sparta à Prague contre Chelsea. À la différence de Naples, dont l'entraîneur avait choisi de faire tourner son effectif pour la réception de Plzeň, en laissant notamment le meneur de jeu slovaque Marek Hamšík sur le banc de touche au coup d'envoi, c'est un 11 de départ type ou presque que Rafael Benitez, le coach de Chelsea, avait choisi d'aligner à Prague pour affronter le Sparta. Très attendu par le public et les médias tchèques, Petr Čech, bien que récemment victime d'une fracture de l'auriculaire, a donc bien défendu le but anglais contre son ancien club et au coup de sifflet final, le gardien tchèque, dont le petit doigt n'a pas été trop sollicité durant 90 minutes par les attaquants du Sparta, était plutôt satisfait du déroulement de la froide soirée pragoise.
Il y a 12 ans, il n'a pas réussi à jouer contre le tchèque. Cela faisait 12 ans que je n'avais plus joué contre une équipe tchèque dans quelque compétition que ce soit. Ce match avait donc forcément une saveur très particulière pour moi, surtout ici contre le Sparta. Mais je suis surtout content que les choses se soient bien passées pour nous. Non seulement nous n'avons pas encaissé de but, mais nous avons aussi réussi à en marquer un pour gagner.
Ce but, qui hypothèque encore un peu plus les minces espoirs de qualification du Sparta avant le retour à Londres jeudi prochain, a été inscrit à la 82e minute par le milieu brésilien de Chelsea, Oscar, qui venait juste de faire son entrée en jeu. Avant cela, les Pragois, sans jamais parvenir à se montrer véritablement menaçants et malgré certaines limites techniques, ont plutôt fait bonne figure comme s'en contentait leur entraîneur, Vítězslav Lavička.
Je pense que nous avons vu un match intéressant. Nous avons peut-être été trop respectueux de notre adversaire dans le premier quart d'heure, mais nous avons ensuite été beaucoup plus actifs, je dirais, jusqu'à l'heure de jeu, tant défensivement qu'offensivement. Nous sommes alors restés bien organisés et nous avons eu quelques occasions de but. Après, il faut reconnaître que nous avons manqué d'énergie dans la dernière demi-heure et nous avons parfois perdu trop rapidement le ballon. Notre adversaire a pris progressivement le dessus et nous a sanctionné avec ce but en fin de match.
Comme le Sparta, qui a donc plus souffert en fin de match contre le dernier lauréat de la Ligue des Champions, reversé en Ligue Europa, le Victoria Plzeň a disputé à Naples, lui aussi, son premier match officiel de l'année 2013, la longue trêve hivernale n'étant pas encore achevée en République tchèque. Et pas plus que le Sparta, le Victoria Plzeň ne partait pas favori contre l'actuel deuxième de la Serie A italienne. Mais un but du jeune international Vladimir Darida à la 28e minute, puis deux autres de František Rajtoral et Stanislav Tels dans le dernier quart d'heure de la partie, ont permis au leader du championnat tchèque de regagner la Bohème de l'Ouest avec une avance plus que confortable et surtout inespérée avant le match retour jeudi prochain. Convaincant depuis trois saisons déjà en Gambrinus Liga grâce à un style de jeu résolument offensif, prometteur la saison dernière en Ligue des Champions, puis en Ligue Europa où il avait été sorti de justesse en prolongation par Schalke 04 à ce même stade des 16e de finale, le Victoria, qui compte dans ses rangs plusieurs internationaux tchèques et slovaques, a donc confirmé ses bonnes dispositions sur une scène européenne où les clubs tchèques ont pourtant bien du mal à exister ces dernières saisons. Après avoir terminé premier de son groupe à l'automne dernier devant notamment l'Atlético Madrid, Plzeň a désormais de grandes chances de s'offrir le scalp de l'ancien club de Diego Maradona. En cas de qualification, le petit poussé tchèque, qui n'a de cesse de grandir, retrouverait les Biélorusses du Baté Borisov ou les Turcs de Fenerbahçe en 8e de finale. Voilà, c'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie pour la seconde partie de notre programme. Comme souvent le vendredi, on retrouve maintenant la rubrique économique. Les titres restaurants Stravinsky en tchèque, qu'ils soient désignés sous leurs noms commerciaux, tickets restaurants, chèques déjeuner ou encore chèques restaurants, font partie de la vie courante de millions d'employés. Il s'agit d'un moyen de paiement scriptural utilisable uniquement dans des restaurants ou pour obtenir des biens alimentaires. Mais comment fonctionne ce système? C'est ce que Daniela Pedrette, responsable de la communication au sein de la société française Edenred, acteur majeur de ce secteur, explique au micro de Pierre Maignan.
Économie, commerce. En 2012, les entreprises tchèques ont dépensé près de 16 milliards de couronnes, soit 630 millions d'euros en titres restaurants, ces titres dont profitent leurs employés pour déjeuner ou faire leurs emplettes. Ce système, souvent perçu comme un avantage pour les salariés, est né en France dans les années 1960 sur l'idée qu'un travailleur reposé et le ventre plein sera plus enclin à la tâche. Les sociétés émettrices de ces titres n'ont pas eu de mal à s'implanter en République tchèque où un système similaire de tickets existait déjà avant la révolution de velours, comme le remarque Daniela Pedrette.
Donc les tickets, historiquement, ils existaient ici déjà dans les années 50. Donc c'est quelque chose qui existe ici depuis très très longtemps. Donc il n'y avait pas de problème à ce que ça continue à exister après les changements en 89. Les tickets en République tchèque, comme en France d'ailleurs, sont intéressants au niveau fiscal. Parce que si on compare avec la France, quelle était l'idée principale ? C'était que les gens qui travaillent mangent le midi.
Les tickets n'ont donc pas été un choc culturel en République tchèque, où trois sociétés, Edenred, Sodexo et une plus petite, Chèque Déjeuner, se partagent ce juteux marché basé sur un avantage fiscal prévu par la loi pour les entreprises désireuses de faciliter le déjeuner de leurs employés. Les trois compagnies déjà citées fournissent donc des titres aux restaurants, aux entreprises qui les redistribuent à leurs employés et s'attachent à créer un réseau de restaurants et de points de vente le plus large possible. Daniela Pedret donne quelques chiffres permettant d'évaluer le succès de ce système en République tchèque.
Les titres en République tchèque utilisent 1,3 million employés. Mm-hmm. Notre société a 500 000 des utilisateurs de titres tickets restaurant. Mais il faut dire que cet avantage, elle est aussi pour les gens qui utilisent ou qui mangent dans les cantines. Ça veut dire qu'en République tchèque, il y a 3 millions de personnes qui profitent de l'avantage fiscal, dont 1,3 million pour le titre et 500 000 pour Edenred.
80% de la population active tchèque entre donc dans le champ d'application de cet avantage fiscal, un avantage qui consiste en fait en une défiscalisation de l'argent fourni par l'employeur à son employé. Daniela Pedret en précise les modalités de fonctionnement.
En fait, la valeur est donnée par le code de travail. Aujourd'hui, la somme idéale pour l'imposition, c'est 100 couronnes. Mm-hmm. De ces 100 couronnes, il y a 55% qui est payé par employeur. Et cette somme, ce qui fait 55 couronnes 30 centimes, est parfaitement libre de toutes les charges. Ça veut dire charges sociales, charges de santé et des impôts.
Les 45% restants sont prélevés sur le salaire net des employés. Cette défiscalisation du travail ne va pas s'en poser de questions. Si cet avantage fiscal est limité au cadre du repas, n'y a-t-il pas un risque qu'il soit étendu à d'autres composantes du salaire, ce qui permettrait à l'employeur de se décharger davantage de ses cotisations patronales ? Aussi, il s'agit d'un manque à gagner pour l'État et à ce titre, la possibilité de revenir sur ce système a de façon récurrente été envisagée par les gouvernements successifs. En 2008, celui de Mirek Topolánek souhaitait ainsi supprimer les titres au restaurant. Le projet n'avait pas abouti, mais les manœuvres de lobbying, à la limite de la corruption de la société Sodexo, avaient à l'époque largement terni l'image du secteur. Et quand le ministre des Finances, Miroslav Kalousek, attendait à nouveau en 2011 d'avoir la peau de cet avantage fiscal, c'est par le biais d'études de marché que l'industrie des titres restaurants s'est cette fois défendue. Ainsi, Daniela Pedret considère elle-même que les tickets restaurants s'inscrivent dans un cercle vertueux, puisque, enquête à l'appui, elle affirme que les employés bénéficiant de ces titres se rendent en moyenne plus de 2,5 fois au restaurant par semaine, soit 50% de plus que les autres salariés. Ainsi, la santé économique de nombreux restaurants reposerait sur ces coupons de papier. La responsable de la communication de la société Edenred se base sur une étude pour affirmer que sans les titres restaurants, l'industrie de la restauration perdrait 7 milliards de couronnes par an, soit près de 267 16 millions d'euros. Elle nous donne de nouveaux chiffres.
On a fait des calculs, l'école supérieure d'économie, la VCHE, et dans ces études qui ont été faites en 2009-2010, je crois, ça dit que le système des titres de repas apporte au budget d'État 400 millions de couronnes en positif. Ça veut dire que si on prend en considération le chômage qui pourrait être dans la restauration, le chiffre d'affaires que les titres apportent aux restaurateurs, en fait, le système arrive à être positif pour le budget d'État.
Mais ce système est précaire puisqu'il dépend seulement de la pérennité de l'avantage fiscal prévu par la loi. En Hongrie, le gouvernement a tenté de s'attaquer à la situation monopolistique des firmes françaises sur ces titres. Les entreprises comme Edenred ou Sodexo essaient par conséquent de diversifier leur offre avec l'introduction de nouveaux tickets donnant droit à d'autres prestations, des cartes prépayées ou des services via les téléphones portables. L'une des pistes envisagées est la dématérialisation de ces titre restaurant, c'est ce qu'explique Rastislav Skultetti, directeur du développement pour Edenred à Prague.
Nous croyons que la dématérialisation, c'est la future pour notre société. Mais aujourd'hui, au marché en Tchéquie, le marché n'est pas prêt. pour cette dématérialisation, pour le ticket de restaurant. Alors, on travaille sur ces sujets, mais je crois que ça va devenir réalité dans quelques ans.
Cependant, des critiques pointent du doigt le risque que pourrait représenter cette dématérialisation en matière de contrôle des employés par leur hiérarchie. Ce à quoi Rastislav Škultéti répond que la mise en place d'une carte à puce de ce type serait conditionnée au respect de la protection des informations des salariés. Il y a quelques semaines, un autre type de coupon a fait parler de lui. La mairie de la ville de Karvina, à l'est du pays, employait une vingtaine de personnes à l'entretien de la commune en échange de quoi elle les rémunérait à l'aide d'un unique titre d'une valeur de 50 couronnes, soit 2 euros, soit 6 heures de travail payées 8 couronnes l'heure. La municipalité a précisé qu'il s'agissait de volontariat. Le titre reçu en échange ne serait donc pas une rémunération, mais je cite, un cadeau offert en récompense pour les services rendus. Un cas similaire s'était produit à Chomutov, où des travailleurs bénévoles recevaient 100 couronnes sous forme de titre par journée travaillée. La mairie de la ville avait été contrainte de suspendre cette expérimentation. Daniela Pedret dit ne pas avoir eu vent de cette affaire, mais suppose qu'il ne s'agit pas de tickets restaurants, mais peut-être de tickets services dont elle nous a précisé l'usage.
Ce ticket est reçu par les gens désignés par état. Par exemple, vous êtes en difficulté, donc les gens socialement faibles. Mmh. Et c'est vraiment l'état qui dit, voilà, cette personne, il a besoin d'aide d'état. Et si la personne, ou s'il y a le risque qu'elle abuse de l'argent en espèces, elle peut le donner en ticket. Ça veut dire que ça permet que, par exemple, s'il y a le père de la famille qui n'est pas employé, et il y a un risque qu'il pourrait utiliser cet argent pour l'alcool ou dans les... je sais pas, pour jouer dans les machines à sous. Dans ce cas-là, il reçoit ce titre pour lequel il peut acheter que la nourriture pour sa famille. Donc ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui permet de contrôler les aides d'État pour les gens socialement faibles.
Un peu comme avec la carte bancaire dite sociale, la S-Carta, il s'agirait d'un système visant à déresponsabiliser les personnes en difficulté, lesquelles ne seraient pas capables de déterminer toutes seules ce qui est bon pour elles. Le titre service est cependant bien moins répandu que son homologue destiné à la restauration. Le plus souvent, les employés tchèques reçoivent ainsi 70 couronnes, soit 2,76 euros, sous cette forme par journée chômée.
Voilà, c'est la fin de ce bloc actualité qui a été préparé par l'équipe de la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt de nouveau à l'écoute de nos programmes. Ahoy!